Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Le yoga, une pratique ancestrale d'origine indienne qui allie le corps et l'esprit, une spiritualité qui séduit les adultes du monde entier, des bienfaits reconnus sur les articulations, la souplesse, le stress ou encore l'anxiété. Mais savez-vous que cette pratique bénéficie également aux enfants dès l'âge de 3 ou 4 ans et même avant, pour réguler leur colère, abaisser leur état d'excitation après une journée d'école, pour améliorer leur concentration, leur motricité, leur proprioception, sans oublier les bienfaits sur leur imaginaire. Nous reviendrons sur l'importance des exercices respiratoires et sur les postures spécifiquement adaptées. Nos expertes vous proposeront une séance de yoga à pratiquer en direct tous ensemble. Alors faites un peu de place à la maison et sortez vos tapis. N'hésitez pas à nous raconter les bienfaits du yoga chez vos enfants au 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter. Et ce matin, pendant les vacances de Gwenaëlle Boulay, c'est Camille Poux-Jalaguier qui prend le relais de la chronique Ma vie de parent. Quel est le menu ce matin, Camille?
En février, nous gagnons 3 minutes 35, donc c'est bientôt le printemps. On est donc prêt pour la salutation au soleil.
A tout à l'heure, Camille, pour votre première chronique dans Grand Bien vous fasse. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Si par exemple on va limiter un animal ou un végétal dans la nature, je vais demander aux enfants de participer à la création de la posture.
Et quand on leur demande leur posture préférée,
c'est l'éléphant. C'est ça. La mamie, c'est moi, c'est bien. Le chat. L'éléphant. Et moi, le tigre.
Bonjour Elisabeth Joanne.
Bonjour.
Vous enseignez en école maternelle, vous êtes professeur de yoga, vos petits élèves bénéficient de vos cours. Vous publiez chez Solar Mon petit cahier yoga et votre best-seller, c'est le livre CD 100% yoga des petits, publié chez Bayard Jeunesse. Bonjour docteur Jacques Potravidal, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes pneumologue pédiatrique et vous consultez notamment à l'hôpital pédiatrique Robert Debré et vous êtes par ailleurs professeur de yoga. Bonjour Christelle Cornu.
Bonjour Ali.
Vous êtes éducatrice de jeunes enfants, professeur de yoga à Grenoble et vous êtes la co-autrice chez Solar de Namasté, Petit Chat Beauté, 15 histoires et leur posture de yoga pour accueillir les émotions et c'est destiné aux 3-10 ans. Bonjour Agnès Gliozo, bienvenue dans cette émission.
Bonjour.
Vous proposez aux enfants des cours de yoga dans différentes écoles et studios parisiens et vous publiez chez Casterman le yoga des émotions. Alors comment présenteriez-vous le yoga aux enfants qui nous écoutent et qui n'en auraient qu'une vague idée, Elisabeth Joanne?
Alors le yoga, je dirais que c'est déjà pour les enfants, c'est vraiment principalement la notion de plaisir, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils aient de la joie à pratiquer. Et avec les petits, on prend beaucoup la symbolique de la maison, le corps représente la maison. Et voilà, et du coup, bien sûr, principalement, comme le vrai yoga, puisque là on parle d'un yoga adapté pour les enfants, avec toute une partie spirituelle qu'on a enlevée, surtout à l'école. Mais c'est vraiment le plaisir, l'assouplissement et principalement la respiration, mieux respirer, apprendre à gérer justement entre guillemets ses émotions, pouvoir ne pas être esclave d'elles, mais pouvoir jouer avec. Voilà, principalement.
Christelle Cornu, comment vous présentez le yoga à vos petits élèves?
Eh bien, moi je leur dis qu'on va jouer avec notre corps. Je rejoins Elisabeth. Il y a vraiment quelque chose de très ludique. On est là pour s'amuser, être à la découverte en fait de son corps, et ça passe aussi par la respiration, vraiment par des jeux. Mais voilà, c'est avant tout une source de plaisir. Et par rapport aux émotions, eh bien, ça aide à mieux vivre ces émotions. L'idée, c'est de pas les gérer ou de les réprimer comme on entend beaucoup à l'heure actuelle, mais plutôt de les vivre. Comment j'apprends à vivre avec ces émotions que je vais vivre, eh bien, jusqu'à la fin de ma vie.
Agnès Gliozo.
Alors, je vais rejoindre les premières paroles. Moi, j'enseigne dans les écoles. C'est vrai que j'apprends avant tout aux enfants. La première chose que je leur apprends, c'est apprendre à respirer et à connaître leur corps. Parce qu'on va vivre avec notre corps toute notre vie. Donc, c'est important de se connaître soi-même, de connaître sa propre maison, d'apprendre à respirer et voilà, un jeu qui va les amener aussi dans une grande concentration et pour aussi apprendre à développer leur mémorisation. Donc je leur apprends aux élèves à respirer, à se concentrer et à mémoriser.
Alors Elisabeth Joanne, pourquoi proposez-vous des cours de yoga à l'école? Comment ça se passe concrètement?
Concrètement, on démarre la journée comme la proposition que je vais vous faire bientôt, par justement prendre contact avec une petite météo intérieure, comment je suis là maintenant à cet instant, et puis comment, en faisant des petits exercices, d'étirement, de respiration, je vais me rendre compte que je change, y compris dans mon humeur. Voilà, ça commence.
Et vous, Elisabeth Joanne, dans votre classe, vous proposez des poses yoga tout au long de la journée, hein?
Voilà, je fais des petites séries. Bon, je travaille avec des maternelles depuis 20-25 ans. Hein. Là, bon, je suis en ex-enseignante, je viens juste d'arrêter. Et oui, voilà, je fais des petites séquences. Hein. Plus ils sont petits, plus on va faire des petites séquences. Et plus ils sont grands, avec des CM1 par exemple, on va pouvoir faire les un quart d'heure. Mais avec des petits, c'est plusieurs fois 2-3 minutes.
Est-ce que l'institution scolaire est rétive à l'introduction du yoga à l'école ou est-elle plus ouverte qu'il y a une dizaine d'années?
Alors, elle est plus ouverte. Moi, j'ai commencé en 96, mes premières formations de yoga à l'école. Et c'est vrai qu'on ne prononçait même pas le mot yoga, hein, tellement ça faisait peur. Tout de suite, c'était assimilé à la secte, etc. Donc, on appelait ça exercice sur le corps. Voilà.
Et quels sont les freins à la généralisation du yoga à l'école?
Et ben après, voilà, la problématique, moi, c'est vrai que, par exemple, j'avais demandé sous le gouvernement Hollande à créer un poste de relaxologue itinérante parce que je faisais des conférences pour les enseignants lors des animations pédagogiques. Et ça m'a été refusé. Et je trouve ça dommage parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un vrai besoin. Avant, c'était un outil qui rendait service. Maintenant, c'est vraiment un vrai besoin parce que, surtout avec les masques, etc.
Et oui, justement, est-ce que le yoga n'est pas particulièrement adapté à la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser, une crise qui a éprouvé les enfants obligés de se masquer à l'école, docteur Potravidal?
Alors oui, c'est sûr, hein, le yoga a de nombreux bienfaits, mais c'est vrai que moi, dans ma pratique quotidienne, donc de pneumopédiatre, je suis des enfants qui ont des maladies respiratoires et le masque, en plus, ajoute de l'anxiété. Et souvent, les maladies respiratoires comme l'asthme, sont souvent liés aux émotions et à l'anxiété. Donc c'est sûr qu'on a plein d'outils avec le yoga pour essayer d'apporter plus de... Voilà, diminuer le stress chez ces enfants. Hein.
Quels sont les bienfaits que vous constatez avec vos patients qui présentent des problèmes, des pathologies respiratoires comme l'asthme par exemple? Docteur Potravidal.
Alors c'est vrai que... Donc, moi juste, je ne suis pas professeur de yoga. Oui, je ne suis pas professeure de yoga, hein, mais j'ai été formée
à la yoga-thérapie
avec le docteur Lionel Coudron, grâce à qui je suis là ce matin, et je tiens à le remercier. Et donc, en fait, moi, j'ai commencé à faire du yoga pendant mes études de médecine. Et en fait, quand on étudie la médecine, en la pneumologie, on nous apprend quelles sont les maladies respiratoires, qu'est-ce qui est grave, comment soigner ces maladies respiratoires. Mais en fait, grâce au yoga, j'ai découvert ce qu'était la respiration, en fait. Juste la respiration naturelle, physiologique, et ça, on ne nous l'apprend pas pendant nos études de médecine. Et c'est pour ça que je me suis formée à la yoga-thérapie, parce qu'en suivant tous ces petits-enfants malades des poumons, je me suis dit, mais... pourquoi est-ce que on ne leur apprend pas à mieux respirer, à mieux gérer leur respiration? Grâce à ça, ils gèrent mieux leurs émotions et ils peuvent aussi mieux gérer leur maladie.
Expliquez-nous, docteur Potravidal, l'importance du souffle, de la respiration. Ce sont des piliers, évidemment, du yoga. Expliquez-nous cette importance fondamentale. Alors,
oui, pour moi, le yoga, c'est la respiration. Hein. C'est ça. Enfin, moi, dans ma pratique quotidienne, c'est ça le plus important. Qu'est-ce que je dis, moi, à tous mes patients en pratique? Je regarde comment ils respirent. Déjà, je leur demande toujours, est-ce que tu respires par le nez ou par la bouche? On sait que c'est important de respirer par le nez. Le nez est fait pour ça, hein, pour filtrer l'air, le réchauffer. Donc, je leur explique que le poumon aime l'air chaud et propre. Donc, déjà, ça, c'est la première chose très importante. Ensuite, je leur apprends à se tenir droit. La posture est importante, et ça, les enseignantes de yoga qui sont là ce matin vont nous en parler probablement après. Et après, la chose la plus importante, c'est la respiration abdominale. Les bébés, quand on les regarde respirer, quand on est parent et qu'on a peur la nuit, on regarde le petit ventre qui se soulève. Et malheureusement, quand on grandit, l'anxiété, la vie de tous les jours fait qu'on oublie cette respiration abdominale naturelle qui est la plus efficace, la plus économique. Et on commence à respirer plutôt de façon thoracique, on dit, une respiration plus haute. Et donc moi, en fait, j'apprends, j'enseigne aux enfants à retrouver cette respiration naturelle. On dit qu'en s'entraînant à reprendre une respiration abdominale, c'est-à-dire que c'est uniquement le diaphragme qui marche, à l'inspiration, le diaphragme s'abaisse et donc le ventre se gonfle, à l'expiration, le ventre se vide. Moi, je dis aux enfants tous les soirs de mettre la main sur le ventre. Déjà, ça aide à mieux s'endormir, donc c'est bénéfique pour le sommeil, ce qui est indispensable pour les enfants, d'avoir un bon sommeil. Et je leur dis qu'en 3 mois, on peut rééduquer sa respiration et réapprendre à avoir cette respiration naturelle, économique et efficace.
Un petit exercice, Elisabeth Joanne, Christelle Cornu, de respiration tout simple à faire avec les enfants.
Je vais reprendre ce qui a été dit par rapport à la respiration ventrale. Je ne vais pas redire parce que je suis absolument d'accord et j'aurais dit exactement la même chose. Dès tout petit, mettre le doudou sur le ventre le soir. Et puis, on peut inventer une petite histoire ou même la chanson « Bateau sur l'eau ». Et puis, le doudou, il vogue en fait sur l'abdomen qui monte et qui descend. Le fait d'avoir un objet, on peut jouer avec le poids de l'objet pour vraiment qu'il y ait une prise de conscience de ce mouvement en fait de l'abdomen. Donc ça, c'est tout simple à faire. D'ailleurs, je le fais même en cours avec mes adultes, de poser ses mains, mais pour rendre la chose toujours un peu plus ludique, avec un objet, un petit doudou. Et puis, si on veut rendre ça fun avec les plus grands, parfois, moi, je prends des petites boîtes de conserve avec un gros lot à l'intérieur, et puis on va en mettre un sur la cage thoracique, et puis un en bas, et puis on joue, en fait, avec justement les volumes pour apprendre justement à apprivoiser les différents espaces dans lesquels on peut respirer.
Mathilde nous demande quel est l'âge idéal pour commencer, Christelle Cornu.
Pardon ?
L'âge idéal pour commencer le yoga.
Alors,
avec les enfants.
Sans aucune exigence posturale et vraiment ludique à partir de la marche. Moi, je travaille dans les RAM, les relais d'assistantes maternelles, et les crèches. Et bien sûr, ça s'apparente à beaucoup de travail de motricité, de découverte en fait. Donc,
un exemple de séance découverte dès 15 mois par exemple.
Moi je fais une séance en fait qui s'appelle Voyage en Inde. Et donc voilà, je les emmène en voyage. Donc on prend différents modes de transport avec à la fois un mélange de travail respiratoire. On fait le train, on va travailler sur la respiration en faisant tch, 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 etc. Et puis on va prendre des postures qui sont toujours en lien avec des animaux, un objet, pour finir à la fin par en général un petit massage, parce que les 15 mois 3 ans on va pas les faire travailler en relaxation, c'est beaucoup trop d'attention et de centration et c'est pas du tout en fait l'objet avec les enfants de cet âge là donc on finit avec des petits massages, voilà, des petites choses qui sont toujours en lien avec le corps.
Alors à la base des séances de yoga pour enfants, on retrouve des étirements, des postures d'animaux, des respirations conscientes, des jeux autour des cinq sens. Les postures rappellent très souvent des éléments de la nature et des animaux et ça ça parle très fort aux enfants, ça, Elisabeth Joanne.
Bien sûr, parce qu'ils sont très proches de la nature. Après, en grandissant, on perd un petit peu ce lien naturel. Donc pour eux, c'est, et comme en plus ils ont une faculté énorme à visualiser. Ils peuvent être dans un monde en même temps de la nature très facilement. Donc ils adorent effectivement mimer les animaux. Ils ont un rapport aux animaux qui est fondamental. Donc ils adorent ça. Oui.
Un exercice très simple dès le réveil. Quel rituel peut-on installer pour démarrer la journée du bon pied, Elisabeth Joanne ?
Eh ben, on va commencer. Alors à ce moment-là, le principal, on peut le même faire sur son lit. Moi, je travaille avec une amie de 90 ans qui fait du yoga, donc à tout âge, on peut commencer effectivement dès la marche et jusqu'au bout de sa vie. Donc c'est vraiment soulever ses fesses, on soulève pour sentir un ischion et l'autre, on se balance un petit peu.
On se balance.
L'ischion, donc c'est l'os des fesses. Quand je disais ça aux petits 3 ans, après c'est les parents le lendemain qui ne sait quoi les ischions. C'est l'os des fesses.
Donc on se balance d'une fesse à l'autre.
On se balance, voilà, d'une fesse à l'autre.
C'est vrai que ça fait du bien là, immédiatement là.
Et puis après, on ralentit le mouvement et quand on est justement à l'arrêt, on est dans son axe. Après, principalement, on va commencer par mettre ses deux mains sur le ventre. On gonfle son ventre comme un ballon. On va souffler dans ses mains, surtout en ce moment, on souffle bien dans ses mains d'un coup. On va étirer ses bras devant, on croise en croisant ses doigts, ses mains. Puis on va monter nos bras vers le ciel. Et à nouveau, on se balance
un petit peu. D'un côté
alors souvent, il baille, hein, ça fait venir des bâillements, qui est le premier étirement. À droite, à gauche. Et puis après, on va retirer les nuages, donc déverrouillage des articulations.
Donc on laisse les bras en l'air et puis on tournicote les mains.
Voilà, on tournicote les poignets, les doigts, on est présent à nos phalanges, à toutes les articulations. Et on retire symboliquement tous les nuages qu'il y a au-dessus de notre tête. Et là, du coup, on va pouvoir attraper le soleil qui est parfois derrière les nuages, surtout dans notre région. On attrape le soleil. Oh, ça fait une boule, c'est un peu chaud, c'est lumineux et bien chaud. Et on va descendre ce soleil sur notre cœur. Et là, souvent, naturellement, il ferme les yeux. Et on va écouter nos pulsations cardiaques, tout simplement, le vivant en nous. Hein, parce que c'est ça qui est fondamental dans le yoga, c'est trouver ces espaces du vivant en nous. Et c'est là qu'on s'aperçoit, par exemple, le mien, il bat un peu vite, il a un peu le tract. Donc, comment on se sent Et notre vérité, c'est celle du cœur, du ressenti. Et ils adorent ça. Et ça, tous les matins, en classe, j'ai fait ça.
Et en régie aussi, tout le monde est en train de réaliser vos exercices. En studio également. Et dans quelques instants, préparez vos enfants, petits-enfants, pour une nouvelle séance de yoga, tous ensemble, dans le plus grand studio de yoga de France. À 10h24, il est l'heure de fredonner « Que sera, sera » de Doris Day.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera.
Que sera, sera de Doris Day.
On commence avec la grenouille prétentieuse.
Grand bien vous fasse.
Yoga fait, yoga fait.
Ali Rébéi.
Le podologue bavard, on met notre pied à la bouche. Le pied à la bouche. Le chien dressé. Notre position canine favorite.
Sur France Inter.
Et ce matin, rendez-vous dans le plus grand studio de yoga pour enfants de France pour une séance à pratiquer tous ensemble. Standard ouvert au 01 45 24 7000 ou en laissant un message sur l'appli France Inter.
Voici des élèves de CE2 comme leurs parents ne les ont jamais vus, c'est-à-dire silencieux.
Les yeux fermés, on inspire. On expire. Pour bien commencer la leçon, d'abord on va vérifier que les épaules sont un petit peu plus décontractées. Hein, parce que ce matin on a porté les cartables.
Les soucis restent à la porte. Une heure par semaine, cette prof de yoga leur apprend à écouter leur corps.
Allez, on inspire, on arrive, on étire les bras.
Au programme, posture de salutation au soleil pour bien commencer la journée.
On expire, on chatouille les orteils avec les bras. Vas-y.
Ou celle de l'arbre pour la concentration. Pas si facile.
Comme vous avez vu l'arbre, il faut se concentrer sur un point.
Et c'est facile ça ?
Bah, il faut pas être trop dérangé par des personnes qui parlent beaucoup.
Extrait du JT de France 2, le 7 décembre 2012. Alors Elisabeth Jouanne, je rappelle que vous êtes enseignante en maternelle, que vous étiez enseignante en maternelle et vous êtes toujours professeur de yoga. Ça vous rappelle des souvenirs, évidemment?
Évidemment.
Alors, Ninon nous demande, que faire si un enfant décroche au cours d'une séance de yoga, s'il s'énerve, qu'il n'y arrive pas? Que faire si son enfant est hostile ou trop dissipé? Question annexe, est-ce que c'est adapté à tous les enfants, le yoga?
Alors non, c'est-à-dire que chacun a sa forme de yoga, hein, ça pourra être faire du tricot, aller à la pêche. Le yoga, c'est une manière de venir vers soi, de revenir vers soi, tout simplement. Il y a des enfants, ils sont pas prêts à un moment donné, ça veut pas dire que 2-3 ans après, ils seront prêts, ou même quelques mois après. Et puis, surtout, ne jamais insister. Il faut toujours qu'il y ait cette notion de plaisir. Donc, si il n'y a pas de désir, bien entendu. Mais bon, moi, une fois, je me rappelle, en classe, il y en avait souvent qui disaient ils voulaient pas, un peu rebelles, et parce qu'ils n'avaient pas envie d'être assimilés au groupe, ce que je peux comprendre complètement. Donc, ils allaient dans un autre coin de la classe, et puis, d'un coup, je les voyais discrètement, qui faisaient les mêmes exercices, mais sans vouloir le montrer, parce que, comme ils sentent le bénéfice que ça leur procure, ils font pas ça pour faire plaisir à quelqu'un, à la maîtresse, à la maman, au papa. Là, c'est pour ça que c'est tout bénéf, en fait.
Agnès Guillouzeau, vous êtes d'accord avec ça? Je rappelle que vous êtes professeure de yoga.
Oui, alors moi, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que moi, j'ai une approche très directe avec les enfants. En début d'année, quand je rencontre les premiers groupes avec qui je vais travailler toute l'année, la première chose que je dis aux enfants, c'est j'espère que vous êtes là car vous souhaitez être là. Vous faites pas du yoga pour faire plaisir à vos parents, pour faire plaisir aux maîtresses. Voilà, je leur dis que c'est un chemin qu'il faut prendre, mais qu'il faut souhaiter le prendre et que s'ils veulent pas, il faut pas venir. Et c'est vrai que par rapport aux enfants qui décrochent, moi j'ai remarqué, alors je travaille essentiellement avec les primaires et les ados. C'est vrai que les enfants, quand ils sont fatigués, moi je les prends souvent à after school, donc à vers 16h, 16h30. Quand les enfants n'ont pas envie de le faire, je leur dis de s'allonger ou de se mettre en tailleur et d'écouter. Et juste d'écouter un cours de yoga et d'être guidé, je pense qu'on apprend énormément. Et souvent, les enfants, naturellement, viennent à faire les postures.
Docteur Potravidal, je rappelle que vous êtes pneumopédiatre. Comment vous invitez vos petits patients à faire du yoga lors de vos consultations? Docteur Potravidal, est-ce que vous êtes avec nous? Non, on vous a perdu, on essaiera de vous retrouver dans quelques instants. Comment adopter à la maison le fameux esprit yoga quand on n'a jamais pratiqué, Elisabeth Joanne? Quelles sont les clés essentielles pour adopter ce nouvel art de vivre en famille?
Mais en famille, justement, on peut faire des petits rituels, par exemple. C'est pour ça que des fois, au lieu de se précipiter le matin, de faire tout au dernier moment, prendre 5-10 minutes sur le réveil un petit peu avant pour faire une petite pratique, si c'est possible, ensemble. Juste comme celle qu'on vient de faire tout à l'heure, déjà, faire une petite météo intérieure. Tiens, là, j'ai pas très bien dormi parce que j'ai eu mal aux dents, donc je vais être plus de mauvaise humeur, donc je vais prendre plus soin de moi, donc une petite météo intérieure. Et puis, proposer en collectif, avec la famille, les membres de la famille, de faire ce petit exercice, de se balancer sur les ischions et une respiration ensemble. Les ischions, les os des fesses.
Vous nous invitez également, Elisabeth Joanne, à lutter contre les surstimulations auditives, à respecter les horaires de coucher, à savoir exprimer ses émotions, apprendre à ne rien faire aussi. En fait, de développer un esprit yoga au-delà de la pratique du yoga proprement dite.
Tout à fait. La pratique, c'est un esprit, c'est un art de vivre, en fait, le yoga. Et c'est du bon sens. C'est-à-dire, on sait à quel point on est pollué par l'environnement sonore permanent. Oui. Et que, de plus en plus, avec les portables et tout ça, les plages de vide font peur. Donc, on va aller tout le temps remplir ce vide. Voilà. Et donc, pardon.
Christelle Cornu.
Je te rejoins complètement là-dessus. Apprendre à se connecter à ses besoins et savoir qui on est me paraît primordial. Et ça, on peut très bien le faire dès le début. Je rejoins la question d'avant par rapport à l'envie, en fait, de pratiquer. C'est important de respecter, en fait, d'avoir envie ou pas. Et je pense que si, des petits, on apprend à savoir qui on est, quels sont nos besoins, ce don et puis les respecter. À l'âge adulte, on peut que être heureux. Et je reviens sur ce qu'on a dit par rapport aux enfants qui participaient pas. Il faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'enfants, et notamment pour les petits avec qui je pratique à partir de 15 mois, qui sont dans l'observation. Et l'observation, c'est aussi pratiquer, c'est aussi être là. Et souvent, dans notre société, c'est le fait de ne rien faire est mal vu, mais pas du tout. Vraiment, l'observation, j'ai vu des enfants qui ne faisaient rien pendant un trimestre entier, mais qui étaient contents d'être là, et qui, au bout de 3 mois, refaisaient, mais alors impeccablement, tout ce qu'on avait fait.
Une question de Mathias qui nous demande quels vêtements et quel matériel acheter. Est-ce que ça coûte cher de pratiquer le yoga avec des enfants? Christelle Cornu, je rappelle que vous êtes prof de yoga.
Oui. Pour moi, en fait, il faut que ce soit une tenue dans laquelle l'enfant soit à l'aise, confortable, justement, pas partir dans des tenues extravagantes. Non, la simplicité, c'est aussi ça le yoga. Juste faire en sorte que, par exemple, au niveau des pieds, ça glisse pas. Et ça, c'est juste une question de bon sens et de sécurité. Mais être à l'aise et confortable.
Alice Gliozo, avant de nous proposer une petite séance de yoga pour les enfants, pourquoi cette pratique permet-elle de réguler leurs émotions, je ne dis pas gérer, mais les réguler. L'idée, c'est non pas de les éradiquer, ces émotions fortes, comme la colère, mais de les accompagner, c'est ça ?
Oui, exactement. C'est vrai que j'ai écrit un livre sur le yoga des émotions, car je m'aperçois que, comme on le disait en début de séance, souvent quand on enseigne aux enfants, mais également aux adultes, je pense que c'est valable et que c'est assez similaire, on demande aux enfants aujourd'hui, vous vous sentez comment? C'est un peu la météo. Et souvent, il y a des enfants, ils sortent de classe, ils sont en colère, ils sont tristes, ils sont angoissés parce qu'ils se sont fâchés avec leurs amis, etc. Donc souvent, ils sont un petit peu, je dirais, trop envahis par toutes leurs émotions et ils savent pas les gérer. Et c'est vrai qu'à travers les cours de yoga, on leur apprend également à savoir l'exprimer. Donc exprimer comment ils se sentent, ce qui est pas forcément évident, que ça soit chez un enfant ou même les grands, de savoir dire ouvertement comment on se sent et après à les gérer et à transformer ses émotions dans une émotion souvent positive. Mmh. Donc c'est vrai que parfois les enfants sont très excités, ça peut être positif comme négatif, mais d'essayer de maîtriser, de contrôler cette excitation et surtout leur donner des clés. Parce que on le fait en cours de yoga, mais comme on le disait, c'est un art de vivre le yoga. Donc, c'est pour les enfants savoir appréhender. Et on le voit particulièrement au collège, quand les enfants commencent déjà à grandir, à avoir plus, on va dire, de contrôle, d'examen, etc. Souvent, les enfants sont totalement envahis par leurs émotions et ne maîtrisent plus. Et on voit des enfants perdre complètement pied s'ils ont un oral ou un exposé. Donc moi, je leur donne des clés pour apprendre justement à maîtriser ses émotions et, comme on disait en début de l'émission, avant tout, par la respiration. La respiration est quelque chose de très, très important. Mais même, moi, je le vois quand j'ai des enfants extrêmement excités. J'ai souvent des grands groupes de 15 enfants de primaire. Quand ils sont très excités, qu'ils arrivent en cours et que je vois que ça peut être très compliqué même de les coordonner, si on commence à faire des postures d'équilibre, donc ça va demander énormément de concentration. D'un coup, les enfants rentrent dans toutes ces postures-là et arrivent à se concentrer et se calment, en fait.
Docteur Jade Potravidal.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord. Je voulais faire le lien avec ce que disait Agnès Gliozo. C'est vrai que dans notre pratique de pneumopédiatre, et en plus avec le Covid actuel, on a beaucoup d'enfants qui ont, on appelle ça des troubles fonctionnels respiratoires, c'est un mot un peu compliqué, en gros, c'est des enfants qui se plaignent d'un essoufflement, de gêne respiratoire qu'on a du mal à expliquer. Mmh. Avant, on appelait ça hyperventilation, spasmophilie, on sait que tout ça est souvent lié aux émotions. Et en fait, le cerveau et la respiration sont très liés et souvent les gens ne le savent pas ou ont du mal à voir comment ça peut être lié. Mais le cerveau a un pouvoir énorme sur la respiration. On sait que quand on respire, il y a une commande involontaire. On respire, on n'y pense pas. Il y a aussi une commande volontaire. Vous voulez prendre une grande inspiration, souffler. Ça, c'est le cortex qui dirige ça. Et puis ensuite, il y a une autre zone dans le cerveau qui s'appelle le système limbique et là, qui gère les émotions. Et donc, la respiration et les émotions, c'est très lié. Et c'est vrai qu'en apprenant à gérer la respiration, on peut mieux vivre ses émotions. Et ça, c'est magique.
Et on va écouter un enfant en colère.
Lâche-toi, lâche-toi. Lâche-toi.
Lâche la coudroie. Benoît, c'est ton chambreman qui parle.
Un enfant très en colère dans le film Nos jours heureux. Agnès Glioso, un atelier pour réduire la colère d'un enfant. Qu'est-ce que vous proposez comme atelier?
Alors c'est vrai que quand un enfant est très en colère, il y a quelques postures qui peuvent aider. Après, je dirais que toutes les postures peuvent bien sûr aider. Je pense que ça sert à rien, par exemple, pas de le répéter, t'es en colère, pas du tout. Je pense qu'au contraire, faut partir un peu dans un jeu, dans une séance. Et moi, j'ai créé une séance sur la colère où on commence à faire le prunier, c'est-à-dire que les enfants se mettent d'abord dans la posture de la montagne avec les pieds bien ancrés dans le sol. Mmh. Et puis, ils font balancer un peu leurs bras à gauche, à droite, et puis de plus en plus vite, en fait, pour décharger cette colère. Donc, on arrive à un peu comme une posture du prunier. Donc, on secoue notre corps pour essayer de se calmer. Donc, je commence souvent par cet exercice. Ensuite, avec toujours les pieds bien ancrés, on va tendre nos bras vers le ciel et puis essayer de se grandir. Et souvent aussi, je leur demande de jouer avec leurs mains, de croiser les 10 doigts de la main et de s'étirer d'abord dans le dos. Donc, les mains se soulèvent loin des fesses et puis après, elles vont un peu à gauche, à droite. Mais je leur demande surtout et avant tout de respirer. Car ce que je leur dis, moi, aux enfants, c'est que votre meilleur ami, c'est votre respiration. Mmh. Vous avez deux meilleurs amis. La respiration et votre colonne vertébrale qu'il faut bien soigner, qu'elle soit bien droite. Et je leur apprends plein de respirations, dont la respiration alternée qu'on apprend aux grands afin un peu d'équilibrer notre cerveau. Mais je leur dis toujours aux enfants, peu importe l'émotion, que ça soit la colère, la tristesse ou autre, le seul moyen de réguler nos émotions, c'est de respirer. Donc je leur apprends souvent à respirer.
Un mot rapide sur la respiration alternée, qu'est-ce que c'est ?
Alors en fait, c'est assez simple, on prend sa main droite, enfin moi je l'enseigne comme ça, hein, je l'ai un peu édulcoré par rapport aux adultes, on prend sa main droite, on va se servir de son pouce index et majeur. Il y a le pouce qui ferme la narine droite et on va expirer d'abord à gauche, puis inspirer à gauche. Et puis les deux autres petits doigts viennent fermer la narine gauche et on ouvre son pouce.
Un peu compliqué peut-être pour
avec
les enfants.
Une narine, en fait.
Un peu compliqué, c'est peut-être un peu compliqué pour les enfants. En revanche, Elisabeth Joanne, vous allez nous proposer un autre atelier pour apaiser la colère de nos enfants.
Oui, alors bon, déjà c'est toujours intéressant de savoir que l'inconscient n'entend pas la négation. Donc quand un adulte dit tu vas arrêter de crier ou etc. En général en hurlant d'ailleurs, ou alors tu vas te calmer. Donc ça c'est quand même aussi à entendre que d'utiliser des termes positifs. Voilà, et au lieu de dire arrête de courir, on va dire est-ce que tu peux marcher doucement, talons, plantes, pointes. Hein, l'initiation à la marche de pleine conscience qu'on appelait comme ça, c'est vraiment la marche zen. C'est prendre conscience de ses pieds dans le sol, prendre conscience de son cœur qui bat, parce que bien entendu, c'est la respiration et c'est aussi bien sûr le vivant en nous. Parce que adulte, on est là tout le temps à raisonner par rapport à notre mental, écouter plus notre bavardage mental que vraiment le cœur. Alors que là, c'est nous relier à notre respiration qui effectivement atténue beaucoup les émotions et puis oxygène les muscles également. Donc c'est aussi la différence avec la gymnastique, c'est que quand on expire et qu'on bouge, qu'on fait des postures, ça oxygène les muscles.
Donc
une petite séance, par exemple, s'il y a un enfant qui est très en colère, déjà lui faire, si c'est possible, parce que des fois ils sont tellement énervés que c'est pas possible, de les faire identifier l'émotion. En préambule, on aura travaillé sur justement des mimes d'émotion. Hein, on pourra s'amuser avant ça à faire des petits mimes. Comment ça fait quand t'es en colère? Donc ils vont aller s'amuser à crisper les mâchoires et tout ça. On leur demande comment ça fait quand t'es en colère, et ben ça fait chaud, je serre les dents, etc. Donc, et après on fait mimer comme ça toutes les émotions. Comme ça, quand par exemple dans la cour de récréation ou ailleurs ils sont très en colère, et ben on peut leur rappeler comment elle s'appelle cette émotion. Et s'il est encore un tout petit peu avec lui-même, il va dire ah ben oui c'est la colère. Donc il y a proposé qu'il y ait d'autres alternatives. Donc déjà par exemple les enfants quand ils sont je suis très en colère, alors ils prennent beaucoup trop d'air. Donc, Donc déjà, c'est les faire souffler. Donc moi, dans ces cas-là, je dis, on va souffler sur le pouce comme si c'était une bougie. Donc c'est vraiment... Tout de suite, on sent les épaules qui se baissent, tout le corps qui se détend. Donc, il peut verbaliser.
Donc, on tend son bras avec le pouce
levé.
Voilà,
on tend son bras devant la bouche, en fait. Et puis, je dis, bon, allez, prends un grand bol d'air avec ton ventre. Et puis, on va souffler comme sur une bougie d'anniversaire. Les petits adorent les bougies d'anniversaire. Et on va souffler tout doucement, très longuement. Déjà,
là,
du
ça
coup,
va mieux, là.
Ça va mieux, il va prendre un autre ton, parler plus lentement, etc. Et du coup, bon, voilà, il la verbalise, dit, bon, tu te rappelles que, voilà, il y a des pays comme l'Inde, on n'est pas ces émotions, on les laisse glisser, on les laisse passer, hein. C'est notre vie à tous, même nous les adultes, on est parcourus régulièrement par des émotions, mais voilà, juste on les laisse glisser. Et puis après, il y a une autre respiration aussi quand ils sont très, très en suroxygénation, ce qui crée de la nervosité, c'est de faire monter les épaules en trois fois. En plus, on va utiliser plus de notre capacité respiratoire. Donc, je leur fais mettre les mains tendues à côté des cuisses. Et puis, je dis, on va remplir nos poumons en trois fois. Donc, trois inspires, on fait...
En haussant les épaules.
Voilà, en haussant les épaules. La troisième inspire, on est super beau, on a tous les épaules rentrées. Et puis, après, j'ai dit, on va maintenant souffler, comme sur la bougie, très, très doucement. Et on sent nos poumons qui se vident comme un ballon de baudruche. Voilà, ça déjà, dans ces deux respirations, ça calme énormément la colère. Et après, si on a du temps, bien sûr, on va pouvoir faire des postures d'animaux, principalement la posture du lion, s'il est très, très énervé. Moi, des fois, j'avais des classes de dingue. Je les faisais mettre à quatre pattes et on faisait le lion. Et là, le lion, on fait... On tire la langue, on exorbite les yeux, on décharge toute la colère, on expulse en fait. Et après, pouf, et après on est tout mou, tout relaxé. Voilà, il y a plein de postures.
Merci pour cet atelier, ce petit atelier pour lutter contre la colère avec le yoga. Il est 10h44, il est l'heure de retrouver la chronique Ma vie de parent signée cette semaine, Camille Pouxjalaguet.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Salut!
Merde!
Alors ce matin, Camille Pouxjalaguet, vous profitez des vacances pour ne pas être à bout de souffle. Hein.
Et oui. Inspirez, vous êtes tourné vers le passé. Expirez, vers l'avenir. Il faut bien s'y retrouver dans cette vie trépidante de parents modernes, maintenant qu'on n'a plus de repères avec des photos argentiques. Surtout depuis le Covid, ce vilain virus, comme l'appelle la maîtresse, le temps s'est complètement distendu. On a d'abord été obligé de s'arrêter et de se dire « j'ai du temps, mais je suis inquiet ». Ne serait-ce pas le moment de souffler entre deux visios / école à la maison? Et si je me prenais un petit cours de yoga en ligne pour être calme et attentif comme la grenouille avec un petit bambou? Ah mais non, ça c'est de la méditation. Mais justement, on ne s'y connaissait pas encore très bien. Mais même pas le temps de s'y plonger. Car depuis, on est redevenu le lapin d'Alice au Pays des Merveilles, en retard et qui court partout. Alors on ne va pas se rajouter une dose de culpabilité hein, quand même, parce que culpa, c'est déjà notre deuxième prénom. Mais savez-vous quelle est la phrase que nos enfants entendent le plus souvent?
Je ne sais pas, Camille culpa. Je t'aime peut-être.
Ce serait super, mais c'est dépêche-toi. Dépêche-toi de t'habiller, de te brosser les dents. D'ailleurs, non mais 3 minutes, qui tient aussi longtemps sérieusement? Et puis endors-toi vite, hein, parce que tu vas bientôt te lever. Et là où on a perdu la course, c'est quand tu deviens comme ta mère, en mettant les bols du petit-déj avant de te coucher. Bientôt, on va dire aux enfants, dépêche-toi, dans ton cours de yoga. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette phrase.
Ouais.
Pourquoi pas, n'oublie pas de respirer tant qu'on y est. On leur transmet aussi cet esprit de compète, de rapidité et de performance. On en parlait mercredi dernier. Harry Potter est un challenge. Moi, j'en suis au 6e tome, et moi, j'étais déjà tous lus 3 fois. Mais c'est normal aussi, ils ont des rallyes lecture en classe. Et comme nous, quand ils rentrent du travail, donc de l'école, ils ont une deuxième journée qui commence. Taekwondo, orthodontiste, devoirs, la fameuse deuxième journée. Comme nous, leur vie est une course. Si t'as pas réservé le 23 février tes vacances d'été, bah c'est complet.
Et la petite enfance n'est pas épargnée, Camille culpa.
Oui, parce que depuis, on a un nouveau décompte, un autre à vos marques, partez. Parce qu'avec ces 1000 premiers jours, le rapport remis par Boris Cyrulnik, t'as pas intérêt à te louper au démarrage. On peut lire. De la grossesse à 2 ans, les 1000 premiers jours sont une période extraordinaire et déterminante pour bébé. Donc on est passé de tout se joue avant 6 ans à tout se joue avant 2 ans, et c'est Santé publique France qui le dit cette fois. On se plaint d'être minuté, mais on porte notre propre laisse à notre cou, qu'on pourrait d'ailleurs appeler un bracelet connecté, et qui nous annonce « Vous avez fait 4000 pas en 8 minutes ». Bah ça c'est super d'avoir marché 8 minutes, mais non en fait c'est vrai, il faut en faire 30. Mais quand trouver le moment ? En revanche, on a le temps de se faire une sacrée dose de série. Hein.
Pendant ces 30 minutes, oui.
D'ailleurs, un petit rappel hebdo dit qu'on a utilisé 3h30 de téléphone par jour. Mais ouf, c'est 15% de moins que la semaine dernière, donc on est sauvés.
Alors c'est vrai qu'on ne donne pas vraiment l'exemple, mais qu'est-ce qu'on peut proposer, Camille ?
De ralentir le rythme, déstresser, prendre davantage de plaisir dans l'éducation de nos enfants. C'est le concept de slow parenting, qui nous vient d'outre-Atlantique, hein, la parentalité lente, qui s'avère bénéfique pour toute la famille. En Suisse, par exemple, il y a des péricultrices qui préparent des ateliers, ouvrez les guillemets, de rien, on enlève tous les meubles de la crèche sans proposer d'activité pour voir les petits s'affairer à leur guise.
Ça me plaît bien ça. Alors là, les enfants peuvent enfin profiter de leur temps.
Ouais, mais cette histoire de temps, c'est trop bizarre. Il y a des parents qui conseillent, non mais profite, hein, ça passe super vite, alors que d'autres parents ne se souviennent même plus de leur vie d'avant. Avant justement. On pensait, non mais moi je ne pourrais jamais les emmener à l'école à 8h20. Bah si, hein, tu vas le faire, on l'a même fait pendant nos 3 à nos 18 ans. Puis il y a ceux qui sont pressés justement. Et moi je les fais rapprocher, hein, comme ça c'est fait. En revanche, le profites-en reste toujours valable. Car entre le burn-out parental et le syndrome du nid vide, ce serait quand même pas mal d'en profiter. Alors comme le dirait une pneumopédiatre ou Clara Luciani, tel un mantra de yoga, respire encore.
Allez, respire.
Ma vie de parent avec Camille Pouk-Jalagui cette semaine. C'était votre première, hein, bravo. C'était très bien, ma chère Camille.
Grâce à la respiration m'a bien aidé.
Et on peut évidemment podcaster. On peut podcaster votre chronique sur l'appli France Inter. Dans un instant, une nouvelle séance de yoga pour aider les enfants à se concentrer. Ça sera juste après Anna Magidson qui interprète En deux mots.
Si je me dis, regarde-moi, prends garde à moi.
Anna Magidson, interprétée en deux mots.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
Et ce matin, comment le yoga peut aider nos enfants? Vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000. Une question impertinente de Claude qui se demande si le yoga pour les enfants n'est pas un apprentissage de la docilité avec ses gestions de la colère et son culte du retour au calme. Christelle Cornu, professeure de yoga, qu'est-ce que vous répondez à Claude?
Merci pour la question. Déjà, je pense que les émotions, on l'a pas dit tout à l'heure, mais toute émotion est positive. Elle est là pour nous donner une information. Par exemple, la peur, c'est qu'il faut fuir, c'est qu'il y a un danger. On parle toujours de l'aspect négatif. En fait, la colère, c'est pareil, c'est une émotion. Donc, il n'y a pas de bon ou mauvais. Et dans le yoga, il n'est pas question en fait de lisser quoi que ce soit. Je rappelle bien, une émotion, elle est faite pour être vécue, pour être exprimée. Après, on vit en société, en collectivité. Et donc, il y a des moyens, il y a des choses qu'on doit faire, effectivement. Même nous, en tant qu'adultes, on ne va pas se rouler dans un supermarché parce qu'on est en colère à cause de la hausse des prix. On est bien d'accord.
Elisabeth Joanne, ancienne enseignante et professeure de yoga, sur cet apprentissage de la docilité avec
oui,
le yoga.
Oui, ça c'est plutôt les peurs d'adultes. Hein. Les enfants, ils ne se posent pas ce genre de questions, surtout quand ils ont vraiment du plaisir à mimer les émotions. Le principal, c'est justement de ne pas en être esclave, de ne pas être mené par ses émotions. Mmh. Et justement, si on les identifie et puis qu'on les laisse glisser, il n'y a aucun problème. C'est qu'on est vivant, c'est qu'on est des êtres vivants. Donc, on a des émotions, des sensations, etc.
Et nous accueillons Bérénice. Bienvenue, Bérénice.
Merci.
Bienvenue. Quelle est votre question?
Alors, moi, je vous appelle à propos de mon petit neveu qui va avoir 2 ans et qui se réveille quasi systématiquement chaque nuit. À 3-4 heures du matin, donc moi j'ai expérimenté ça la semaine dernière, on était tous en vacances, et il se réveille, il pleure, il est debout dans son lit, et c'est vrai que c'est compliqué. Alors moi je pratique le yoga depuis très longtemps, depuis le début des années 90, j'ai une mère qui est précurseur, qui nous avait mis au yoga, donc enfant, mon frère et moi, j'ai fait des stages aussi avec Lionel Coudron, qui a été cité précédemment.
Donc
j'adhère à 150% à ce qui a été dit dans toutes les missions. Et bon, bah voilà, j'ai parlé calmement à mon neveu, j'essaye de respirer calmement et qu'il me suive également. Mais je voulais savoir si vos intervenantes avaient d'autres conseils à donner aux parents qui sont épuisés, quoi.
Voilà. Christelle Cornu.
Prendre soin de vous.
Oui, c'est vrai.
Voilà, c'est la première chose. Ça peut paraître très basique, mais effectivement, on va pas avoir d'action directe en fait sur un enfant, c'est qu'il est en train d'exprimer en fait. Et là, c'est l'éducatrice de jeunes enfants qui parle. Hein, il est en train d'exprimer quelque chose, peu importe ce que c'est. Après, il faut prendre soin de soi. Bravo, vous avez tous les outils a priori si vous êtes né dans le monde du yoga pour pouvoir justement, traverser en fait cette période pas facile, la respiration, le postural et puis peut-être même d'autres choses.
Elisabeth Joanne.
Par exemple, si c'est un enfant qui se réveille la nuit aussi, par exemple, qui a des angoisses, des cauchemars, il y a vraiment un petit truc tout simple, c'est qu'on arrive avec un sac qu'on lui a fait fabriquer au préalable et on dit tiens, je vais chercher le sac à cauchemars. Tiens, tu vas mettre ton cauchemar dans le sac, on le ferme bien et puis le lendemain, quand il est mieux réveillé, on lui dit tu vois, en fait, voilà, et c'est là qu'il comprend qu'il a un système intellectuel, mental, qui va lui créer des angoisses, etc.
Voilà. Merci beaucoup Bérénice. Le yoga peut aider les enfants à mieux se concentrer, à être davantage attentifs. Elisabeth Joanne, une petite séance pour mieux se concentrer peut-être?
Voilà, alors après principalement on dit que c'est les postures d'équilibre qui améliorent la concentration, mais bien entendu plein d'autres postures peuvent améliorer la concentration. Déjà c'est juste être attentif à quelque chose en nous, donc on peut tout simplement pour améliorer la concentration, comme on l'a fait tout à l'heure, mettre nos deux mains sur le cœur. Mmh. Et puis, par exemple, imaginer que notre cœur se gonfle dans l'inspire, comme une fleur qui s'ouvre. Une rose qui s'ouvre. Et puis, qui se referme doucement. C'est la nuit. Donc on peut se concentrer juste vraiment en mettant en lien son intellect avec son corps. Donc c'est ça le principal, vraiment. Et on peut faire de plein de manières. On peut faire des rotations de la conscience sur les parties du corps, ce qui est une spécificité du yoga nidra. On va mettre notre mental au service de notre corps. Et puis on va faire visualiser, on va dire tu sens le pouce de ta main droite, deuxième doigt, troisième doigt. On énumère les parties du corps. Et puis du coup, on va placer notre attention au niveau du corps. Et ça, ça va concilier, parce qu'ils adorent ça. Déjà, ils adorent savoir comment ils sont fabriqués à l'intérieur d'eux. Et puis, ça va améliorer considérablement l'attention.
Christelle Cornu, une dernière petite séance peut-être?
Oui, très
Allez-y.
Bien. Donc, on part sur une séance?
Allez-y.
Allez. Alors,
qui favorise quoi, par exemple?
Là, on va vraiment être sur les tout petits, qui est ma spécialité, en fait, la découverte du schéma corporel. Voilà. Donc, on va partir en voyage en Inde. Et moi, à chaque fois que je pars en Inde, eh bien, je prends toujours une bonne petite douche. Donc là, on va prendre une douche énergétique. Vous allez prendre vos petites mains et vous allez tapoter avec le bout de vos doigts votre tête.
Voilà, on est en train de le faire.
Voilà, on tapote tous. Et puis maintenant, on va faire descendre, on va faire couler l'eau en fait sur nos bras et on va tapoter nos bras, nos épaules. Voilà, on a deux bras, donc l'un et l'autre. Et puis on va réveiller maintenant notre poitrine, toujours avec le bout des doigts.
Le bout des doigts.
On va tapoter la cage thoracique, c'est la partie haute de ton torse. Et puis je vous propose en même temps de réveiller notre voix et on va faire tous ensemble un A. Et on fait descendre. Et maintenant, on va frotter son ventre, ce qui nous permet en fait de bien digérer tous ces aliments. Voilà. Et on va descendre, on va tapoter ses cuisses, un peu comme un cheval qui galope jusqu'en bas. Et pour les plus souples, on va toucher le bout de ses orteils.
Moi, j'arrive pas. Christelle Cornu, c'est trop dur pour moi.
Et là, on a bien réveillé tout son corps. Et je vous propose maintenant, parce qu'en Inde, il y a un énorme soleil, c'est de vous mettre debout, les jambes écartées. Et on va s'étirer avec les bras en l'air très très haut, très très haut, comme si on voulait toucher le ciel. À droite, à gauche. Et puis pour finir, eh bien, le soleil va se coucher sous les montagnes et on va se mettre en boule par terre dans la posture de l'enfant. Alors là, c'est un peu compliqué au studio, mais nous, on va essayer de faire. Hop, on se met en boule, on roule sa tête, les fesses sur ses talons et on relâche.
Et Laetitia Gaillet, qui vient d'entrer dans le studio, se demande ce qu'il se passe dans Grand Bien Vous Fasse. Merci infiniment d'être venu ce matin. Namasté, petit chat beauté de Christelle Cornu, c'est chez Solar. Agnès Gliozzo, le yoga des émotions, c'est chez Casterman. Isabelle Joanne, votre best-seller, rappelez le titre.
100% yoga des petits.
100% yoga des petits chez Bayard Jeunesse. Et merci, docteur... Vidal, pardonnez-moi. Non, mais j'étais concentré, moi, sur cette séance de yoga, vous savez. Absolument extraordinaire. Merci, Alice Gliosa, je vous ai déjà remercié. Je suis encore dans votre séance de yoga, cette cornue. Là, je suis totalement ailleurs, là. Merci. Et la bibliographie, évidemment, disponible sur l'appli et le site de France Inter. Demain, nous vous aiderons à quitter les grandes villes. Comment expliquer la ruée vers l'ouest? Quelles sont les villes et villages où il fait mieux vivre? Vous pouvez nous laisser un message d'ores et déjà sur l'appli France Inter.